France Inter.
Interception ce dimanche raconte deux histoires de gens qui ne veulent pas disparaître. D'abord des vieux. Ne les appelez pas seniors ni personnes âgées. Vieux, ça leur va bien. Ils vivent ensemble dans un habitat coopératif. Et pour eux, ne pas disparaître, c'est ouvrir les portes, être visible aux yeux de la société. Et puis ne pas disparaître pour les vignerons du Midi viticole, c'est continuer à vivre de leur travail comme leur père avant eux.
Interception. Fabienne Sintès sur France Inter.
Vous ne vous souvenez pas de cet événement, à moins d'habiter dans les Corbières. Encore plus si dans cette région, nous ne sommes pas très loin de Narbonne, vous êtes d'une famille de vignerons ou d'agriculteurs. Parce que si c'est le cas, votre père ou votre grand-père vous a raconté la guerre du vin et la manifestation qui dégénère le 4 mars 1976. À l'époque, ça fait des années qu'on se bat, notamment contre l'entrée en concurrence des vins italiens. C'est le marché commun que l'on rend responsable de l'appauvrissement des vignerons. Les rassemblements sont violents. Cocktails Molotov, explosifs agricoles, on a même monté des organisations clandestines, les CAV, comités d'action viticole, qui n'hésitent pas à bloquer, à casser, à vider les cuves des vins étrangers. Le 4 mars, donc, sur le pont de Montredon-les-Corbières, c'est plus grave, échange de coups de feu avec les forces de l'ordre, deux morts, un viticulteur et un CRS. L'histoire a traumatisé la région.
Il y a quelque chose qui m'échappe encore aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu de poursuite judiciaire. Je pense que la raison d'État a poussé les décideurs à éviter qu'une enquête en aboutissant crée un nouveau climat d'affrontement.
En mars dernier, pour la première fois, à l'occasion du 50e anniversaire de cet événement, CRS et vignerons se sont rassemblés dans une cérémonie commune. Parce qu'en 50 ans, beaucoup de choses ont changé dans cette région. Ce qui n'a pas bougé, c'est la colère. Damien Mestre va vous raconter cette histoire, qui commence donc sur un pont, devant le massif des Corbières.
Alors, on se met ici alors ?
Allez.
C'est ici que deux hommes sont morts cet après-midi.
Jeudi 4 mars 1976.
Ici, c'est le pont de Montredon des Corbières, à 5 km de Narbonne, au-dessus de la voie ferrée qui longe la Nationale 113.
Alors, Jacques Serre, c'est un vigneron retraité et qui a vécu les événements de Montredon il y a 50 ans.
On savait depuis quelque temps que le Midi viticole était, comme l'on dit, en ébullition. On savait que la colère des viticulteurs montait.
Jean-Louis Younet, ancien officier de paix de la CRS 26. Présent lors des affrontements d'il y a 50 ans.
C'est que l'entrée en vigueur du règlement viticole européen en 1970 a porté un rude coup aux viticulteurs. D'un système d'organisation des marchés, on est passé à une déréglementation totale, sans prix garanti, laissant les vignerons désarmés face aux importations massives de vins d'Algérie et d'Italie.
Le matin même, on était venu ici, on avait arraché la voie ferrée, les forces de l'ordre qui étaient déjà passées avaient eu déjà quelques tirs. On était déjà depuis des années en crise, ça faisait 5 ou 6 ans qu'on était en crise, et puis là, je crois que les gens étaient à bout. Moi j'étais venu armé, mais les fusils dans la voiture, je ne les ai pas descendus. Entre le temps de le dire et de faire ce geste, de se tirer dessus entre personnes raisonnables, c'est pas normal. Mais on savait que ça allait mal se passer.
Il est 14h45, les viticulteurs mettent le feu à 3 wagons d'un train de marchandises qu'ils viennent de stopper. Des renforts de CRS arrivent de Narbonne et tirent des grenades lacrymogènes. Les viticulteurs, depuis la nuit, sont armés. Ils ripostent à coups de fusil de chasse.
Deux morts, un commandant de CRS de 41 ans, Joël Le Goff, et un viticulteur de 50 ans, Émile Poix.
Et voilà, on y est sur ce pont qui n'a pas vraiment changé d'ailleurs depuis 50 ans. Il y a toujours cette route très fréquentée, la voie ferrée juste en dessous. C'était d'ailleurs pour ça que c'était un lieu de rassemblement à l'époque. Les manifestants pouvaient bloquer à la fois les voitures et les trains. On voit aussi là de chaque côté du pont ces deux stèles en hommage aux deux victimes. L'une pour le CRS, l'autre pour le viticulteur. Deux camps, CRS, viticulteur, qui 50 ans plus tard se retrouvent donc ensemble sur ce même pont. Jean-Louis, côté force de l'ordre, quel souvenir vous gardez, vous, de ce 4 mars ?
J'ai encore aujourd'hui le sentiment que nous sommes tombés dans un traquenard, non pas tendu et seulement tendu par les viticulteurs, mais d'une manière générale par le pouvoir politique de l'époque. Nous sommes envoyés en direction de Narbonne, mais en nous demandant quasi expressément de passer par le pont de Montredon, où, alors que nous ne le savions pas, mais que nos PC opérationnels devaient le savoir, se trouvaient déjà un certain nombre de manifestants dont on aurait dû savoir qu'ils étaient avec l'intention de faire éventuellement usage de leurs armes. Et le sentiment que j'ai toujours aujourd'hui, c'est qu'en quelque sorte, nous envoyaient à l'abattoir sans avoir préparé à proprement parler l'usage des armes.
Les CRS n'ont jamais tiré les coups de fusil en premier, c'est sûr. Mais des tirs de bombes lacrymogènes, je pense que oui. Après, une fois qu'on vous êtes sur le pont, que les premiers coups de fusil retentissent, que vous voyez les impacts sur le sol, les gens courir, des balles qui sifflent derrière, là, vous dites, ça y est, c'est plus une plaisanterie, quoi.
Et là, parmi les trois premiers qui ont été touchés par balles, comme c'est le cas souvent en temps de guerre, ce sont trois de nos officiers, nous étions quatre.
Quand le commandant est touché, vous comprenez très vite qu'il y a un blessé grave de votre côté.
Le commandant, il était à côté de moi, et c'est moi qui l'ai relevé. Bon, je ne sais pas si je dois le dire, mais quand même, si vous voulez. Instinctivement, j'ai fait ce que je croyais bien de faire, qui consistait à remettre ses bouts de cerveau dans son crâne. Après quoi, évidemment, nous avons fait le nécessaire pour aller chercher les dotations qu'il nous fallait pour agir, et nous avons fait, en effet, usage de nos armes.
La riposte, je pense, a été immédiate, avec un tir sur un vigneron. Sur le vigneron, pour moi hein, c'était vraiment une cible. Il était appuyé sur un panneau, il était loin des affrontements. Mais ça faisait une belle cible à descendre, donc une balle en pleine tête, ça ne pardonne pas. Là, on dit, ça y est, c'est la guerre, quoi. C'est la guerre entre nous, et voilà, c'est l'impensable.
Là, je voudrais que Jacques Serre m'entende. Contrairement à ce qu'il imagine, je dis bien ce qu'il imagine, hein, il n'y avait pas, à cette époque-là, d'armes qui permettent de tirer de type tir d'élite contre telle ou telle personne. Et d'ailleurs, si ça avait existé, je crois pouvoir dire que c'est certainement pas sur quelqu'un de non armé que nous aurions fait usage de nos armes. Moi, je crois, mon intime conviction, c'est que Émile Pouytès, dont je salue la mémoire, a été touché par ce qu'on appelle une balle perdue. Parce que, même s'il y avait quelqu'un dans notre unité qui aurait eu cette intention, nous n'étions pas ce jour-là, si vous connaissiez la nature de nos armements de l'époque, contrairement à ce qu'on a aujourd'hui, pour faire un tir de précision avec ce dont on était doté, c'était extrêmement compliqué.
Vous n'en avez jamais voulu au viticulteur ?
Mais jamais. Alors, Alfou, ça aussi, il faut le dire, hein. Un commandant de la force publique ne saurait vivre dans la moindre haine, ni avant, ni pendant, ni après. Sinon, il faut qu'il fasse un autre métier. Hein. Il y a quelque chose qui n'échappe encore aujourd'hui et qui va corroborer les doutes dans lesquels nous sommes. C'est qu'il n'y a pas eu de poursuite judiciaire. Je pense que la raison d'État a poussé les décideurs à éviter qu'une enquête puisse, en aboutissant, créer un nouveau climat d'affrontement. Ça, c'est l'explication la plus raisonnable. Y en a-t-il une autre ? C'est pas moi qui vous la donnerai.
L'image belle, vous étiez 50 ans en arrière, face à face, sur le pont, chacun d'un côté. Là, vous êtes côte à côte, 50 ans plus tard.
C'était le but. On en a convenu qu'il fallait maintenant le faire ensemble, faire cette cérémonie d'un commun accord avec un dépôt de gerbe commun, la même gerbe. Je pense que ça aussi, c'est important. Voilà. On tourne la page. Il faut vraiment tourner la page. Et il faut que les gens le comprennent.
Ça nous honore et ça nous élève. C'est-à-dire, ça nous met dans une position où on se reconnaît les uns les autres. Parce que, ça aussi, je veux le dire, nous n'ignorions pas les difficultés du monde viticole et du monde agricole. On ne les ignore pas non plus aujourd'hui. On ne fait pas aussi cela que pour nous. On fait ça pour les jeunes générations. Il y a un devoir de transmission, là, pour que ce que nous avons vécu, nous, on ne le vive jamais.
Ça y est, c'est le jour J, les commémorations. On est en train d'arriver. Il y a plusieurs dizaines de voitures qui essaient de se garer. C'est bien organisé. Il y a même une petite navette qui amène les gens jusqu'à l'église de Montredon des Corbières où a lieu une messe spéciale.
Justice pour le viticulteur Émile Puit et le commandant du CRS Joël Legault.
L'église est pleine à craquer, il y a l'évêque de Carcassonne qui est en train d'arriver.
Pour défendre leur travail, assumer leurs fonctions.
C'est un moment important, le grand nombre que nous sommes, trop grand pour eux. Les capacités de cette église en témoignent. Anciens CRS et anciens viticulteurs, vous aviez choisi de vous tenir côte à côte pour cet anniversaire, parce qu'ainsi c'est un exemple que vous donnez aujourd'hui. Dans les questions qui aujourd'hui se posent sur la capacité de notre pays, de notre société, à demeurer unis par-delà ces divergences. Entrons, chers amis, dans notre célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et que la paix soit avec chacun d'entre vous.
La messe vient de se terminer, on se dirige maintenant vers ce fameux pont. Il y avait déjà pas mal de monde à l'intérieur de l'église, mais là, il y a des gens qui continuent encore à arriver. La foule est en train de grossir, il y a 700, 800 personnes environ. C'est assez solennel. Il y a des drapeaux français, ceux des CRS, et il y a aussi un groupe de militants avec le drapeau rouge et la croix occitane là-bas.
Joan Peyre Laval, Jean-Pierre Laval, comme la ville, elle l'avait à elle, Fugueri, le porte-bout des Boulenburg au pays, qui est le mouvement de la Zanna de 70, qui est fort présent en Belus-Mignay-Hunt et Arro. J'étais le porte-parole de Boulenburg au pays, c'était le mouvement des années 70, et aujourd'hui je suis le président de Pays Nostre, ça veut dire notre pays, qui est un mouvement régionaliste.
Grand défenseur de la langue occitane, c'était important à l'époque, cette défense de la langue occitane au sein du milieu viticole ?
Alors, mais c'était plus que la défense de la langue occitane, c'était la défense des valeurs de l'Occitanie. Hein. Le slogan qui n'était pas porté que par le mouvement occitan, c'était vivre et travailler au pays, vivre et travailler au pays. Donc c'était la défense aussi de l'économie régionale. Hein. Et donc on a été très plus que proche, on a été presque fusionné avec les comités d'action viticole et on a participé à beaucoup de luttes tout au long de ces années autour de vivre et travailler au pays.
On appelait ça le Midi Rouge ici.
Tout à fait. Ben, des villes en langue d'or, vous rappelez, des villes comme Béziers, comme Sète, comme Nîmes, étaient dirigées par des maires communistes. C'était des valeurs plutôt progressistes, je pense. Bon, et c'est certain que là, aujourd'hui, ça a changé. Il reste de quelques bastions, mais enfin, c'est certain que, bon, vous le savez, les résultats électoraux, on les voit. Hein, c'est le Rassemblement national qui, aujourd'hui, est dominant dans les votes. Hein. Il y a 3 députés du Front National dans l'Aude. Il n'y avait que des députés socialistes et avant des radicaux socialistes.
Aujourd'hui, 50 ans plus tard, quel regard vous portez sur ces commémorations communes, CRS, viticulteurs ?
C'est ce qu'a décidé le syndicat des vignerons, donc on le respecte, mais enfin c'est un peu étrange. d'habitude, donc, il n'y avait que les drapeaux occitans dans la commémoration, hein, puisque c'est le symbole de la région, de l'Occitanie. Il n'y avait pas de drapeaux des anciens combattants ni des CRS, mais enfin, je veux dire, voilà, c'est ce qui a été décidé, on le respecte.
Aux morts !
Là, il y a Jean-Louis, le CRS, et Jacques, le viticulteur, qui sont en train de déposer une gerbe de fleurs ensemble. Et là, il se serre la main, il se retourne, il se serre la main devant le photographe. Comment vous vous sentez, Jacques ?
Ben, je me sens un peu soulagé, parce que je me dis, ça y est, on est arrivé à force. À force, on a pu se tendre la main, mais devant tout le monde. Et cet événement, pour moi, ça restera marqué 50 ans. Et j'espère que maintenant, tous les ans, on pourra faire pareil, ce même dépôt de gerbes. On va se recontacter pour l'année prochaine, déjà. Mais voilà, il fallait le faire. C'était quelque chose d'un tournant dans la vie.
Alors, dans la foule, il y a beaucoup de personnes âgées, mais il y a aussi beaucoup de gens qui, visiblement, étaient... beaucoup trop jeune à l'époque pour avoir participé à la fusillade ou même pour l'avoir connue d'ailleurs.
Bonjour, je suis Marthe-Marie Alès-Roux, je suis viticultrice à Ribot, hein, et du coup je suis là aujourd'hui pour la commémoration de mon redon parce que ben, dans la famille on est viticulteur et en l'occurrence c'est le papy qui était présent à mon redon. Et donc avec ma maman, voilà, on est venu aujourd'hui, c'est l'histoire qui continue, il faut être là.
50 ans après, on peut se dire que c'est de l'histoire ancienne. Pourquoi c'était important d'être là quand même pour vous ?
Et malheureusement, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier parce que quand on est dans une conjoncture aussi tendue qu'aujourd'hui, on peut arriver dans des situations malheureusement un peu similaires à celles qui se sont passées il y a 50 ans. Et du coup, c'est important de se souvenir pour ne pas reproduire certains drames qui ont pu se passer il y a 50 ans. Aujourd'hui, on se retrouve avec les mêmes problématiques qu'à l'époque, hein, mais il y a en plus aujourd'hui, nous, la conjoncture climatique qui vient se rajouter à tout ça. Les problèmes sont toujours là. Le fait que l'on soit aussi moins nombreux en tant que viticulteurs crée encore plus de tensions parce qu'on est aussi un petit peu moins entendus, notamment par les politiques et les autorités, ce qui fait que les tensions sont là parce que quand on n'est pas entendu aussi, c'est difficile.
Est-ce que vous pouvez, nom, prénom, vous présenter ?
Alors Philippe Cazet, vigneron, céréalier, arboriculteur sur la commune d'Arzès. Et je suis le fils d'un père syndicaliste qui était là aux événements de Montredon en 76.
C'était qui votre père ?
André Cazet, qui se situe sur le village de Loc. Un grand monsieur qui a énormément fait pour cette région.
Devant la façon dont les pouvoirs publics
André Caz
ont promené l'ensemble des responsables professionnels ou politiques du département.
Jeudi 4 mars 1976.
Une violence en appelle une autre.
Quelques minutes avant les échanges de tirs sur le pont de Montredon des Corbières.
C'est un climat où il n'y a pas de vainqueurs, il n'y a que des perdants.
Vous pensez que les raisons pour lesquelles s'est battu votre père courent toujours aujourd'hui ?
Ah mais aujourd'hui, on revoit la photo d'il y a 50 ans en arrière et nous avons l'impression que rien n'a avancé, qu'on se retrouve au même niveau, au point de départ. Donc c'est quand même grave parce qu'à un moment, en France et en Europe, il faudra se poser la question, qu'est-ce que nous voulons faire de l'agriculture ?
Est-ce qu'on pourrait venir passer vous voir au domaine familial ?
Avec grand plaisir.
Super, bah, merci. Voilà.
Au domaine Saint-Martin à Luc, tout près de Carcassonne. Et on voit bien là, le long de l'autoroute, ces jachères, ces terrains qui ont l'air à l'abandon. En fait, c'est des vignes qui ont été arrachées ces dernières années, faute de rentabilité, arrachées contre une aide de l'État. Il faut bien imaginer, mesurer le phénomène. C'était vraiment, à l'époque de la fusillade, dans les années 70, le vignoble du Languedoc-Roussillon, là où on est, il était plus de deux fois plus grand que ce qu'il est aujourd'hui. On produisait 30 millions d'hectolitres par an, c'est presque autant que tout ce qu'on a produit en France comme vin en 2025. Donc c'est un peu comme certaines régions de France qui ont connu des fermetures d'usines.
C'est un peu l'équivalent agricole ici, où tout un secteur d'activité qui disparaît progressivement depuis des années. Bon, on va se mettre un peu de musique pour le trajet. Claude Marty, l'une des figures de la chanson en langue occitane qui sillonnait à l'époque la région pour faire des concerts de soutien aux manifestants.
En un parti a Michonay, tout à l'eau, l'Ariel à Barrero, nostra parena del soleil, saben plan que ceux d'autres routes marchent en l'ús del Manerbés, carcassés et courbieros tutos, sean los comandos de la nuit.
On retrouve Philippe Caze sur ses terres d'enfance au domaine Saint-Martin. C'est le domaine de son père, André Caze, qui, on l'a dit, était une des grandes figures des luttes viticoles, l'un des meneurs en 1976. Aujourd'hui, André Caze a passé la main aux enfants, à Philippe donc, et à son frère jumeau, Henri, qui nous attend aussi. Les deux frères, ils avaient 9 ans à l'époque de la fusillade.
C'est Henri, c'est ça ?
C'est ça.
C'est ici que votre père il s'est retranché après la fusillade. Mais il s'était mis ici.
Voilà, mais c'est vrai que c'est à part parce qu'on habite dans la campagne. Et à la campagne, autour des pins, des vignes, on est quand même un peu enclavé.
Donc il était ici à l'abri en quelque sorte.
Tout à fait. Et là, on a une vue extraordinaire sur la vallée de Saint-Martin, qu'on appelle le Petit Saint-Martin. Entouré de bois, d'une partie méditerranéenne et océanique, parce que d'un côté on a les pins, de l'autre côté on a les chênes. Au fond des collines, on rentre dans le territoire des Corbières. C'est joli.
Mais là, c'était un hangar qu'on a réaménagé en local bouteille. Et derrière, il y avait une ancienne bergerie.
Donc là, vous stockez les bouteilles.
Ouais.
Parce que c'est vous, Henri, qui avez repris l'exploitation du père ?
Oui.
Il y a combien d'hectares ?
Quand on l'a repris, il y avait 80 hectares et aujourd'hui, il y a 150 hectares de vignes.
Et vous, Philippe, vous n'avez pas repris
Non, moi, j'ai repris l'exploitation du côté maternel, qui était déjà un domaine un peu conséquent. Et aujourd'hui, je l'ai doublé. Et aujourd'hui, on se retrouve à peu près avec 150 hectares de vignes, 150 hectares de céréales et une vingtaine d'hectares d'amandiers.
Vous le vendez à qui, votre vin ?
Alors nous, aujourd'hui, on le vend à des négoces.
C'est des citernes qui viennent. C'est
un peu comme les producteurs de lait, en fait.
Pareil.
Après, ça va un peu dans la France. Moi, j'en ai une partie. Bon, France, Europe du Nord, États-Unis, Japon, voilà ce que je sais au niveau de mes lignes.
J'imagine qu'avec une grosse exploitation comme vous, vous arrivez quand même à être rentable.
Non, ça fait 3 ans aujourd'hui où je suis en déficit. Ça fait 3 ans où je ne prends pas de salaire. Et on fait quand même plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Tous les vignobles actuellement souffrent. Ça coûte trop cher.
Vous parlez des coûts, c'est quoi qui coûte cher aujourd'hui pour...
Aujourd'hui, moi, je fais la règle de 3. Un tiers de masse salariale, un tiers d'intrants, produits phytosanitaires, et un tiers de mécanisation.
Et les coûts de ces 3 tiers-là, ils augmentent ?
Ah oui, oui, c'est simple. Il y a encore, on va dire, il y a 4-5 ans en arrière, juste avant le Covid, on était à 3000 euros. Aujourd'hui, on passe à 5000 euros l'hectare pour un hectare de vigne.
J'ai une question un peu naïve, mais pourquoi vous augmentez pas le prix de votre vin ?
Ah, mais c'est une très belle question. Aujourd'hui... J'aimerais le monter, mais on me dit, vous pouvez faire cette offre. Vous verrez. Il n'y aura personne qui va venir taper à la porte. Hein. Vous savez, même aujourd'hui, on a des négociants. J'ai eu le cas sur un volume assez conséquent de 3000 hectares récemment. Le jeudi, on se met d'accord sur un prix verbalement. Le mardi, je reçois les contrats. Résultat des courses, je perdais 20 000 euros. parce qu'il avait revu les prix entre-temps, sans m'en parler. Et il m'a imposé des prix. Les négociants, ils se fixent un prix. Vous voulez le prendre, vous le prenez. Vous voulez pas le prendre, nous, on va voir ailleurs. Il y a quelqu'un qui va le revendre, et peut-être même avec une qualité moindre, mais ils vont trouver preneur. Aujourd'hui, il n'en faut pas beaucoup. On ne demande pas l'aumône, mais de revaloriser nos prix. La dernière fois, j'étais avec un chauffeur, il venait me chercher du vin. Et là, il m'expliquait qu'il était allé à Bordeaux chercher du vin d'Afrique du Sud. C'était du Senso Rosé, rendu chez le négociant à 50 euros l'hecto, net, filtré.
Vous, c'est combien ?
Nous, aujourd'hui, pour bien aller, il faut être à 90 euros, net.
Et vous, Philippe, vous faites plus seulement que du vin, d'ailleurs ?
Non, non, moi je fais aujourd'hui, je suis en polyculture vigne céréales, et il y a 5 ans, j'ai vu que les céréales, ça perdait, et puis si on continuait comme ça, on n'allait pas s'en sortir. J'ai voulu diversifier mon entreprise, donc j'ai commencé à planter quelques hectares d'amandiers, et aujourd'hui on se retrouve avec 19 hectares d'amandiers qui arrivent actuellement en production. Donc déjà, nous, on avait anticipé la crise un peu des céréales, avec quelques-uns. Et la diversification, aujourd'hui, s'il fallait que je fasse la diversification, la commencer, aujourd'hui, je n'aurais pas les moyens pour la faire. Je n'aurais pas les moyens économiquement de la faire. Donc aujourd'hui, il y avait cette polyvalence, on va dire, cette polyculture. Une année, c'était une culture, une année, c'était l'autre. Mais il y avait toujours quelque chose où ça fonctionnait. Là, aujourd'hui, rien ne fonctionne. Quand on va taper sur des gros fournisseurs, ils te disent « Mais nous, voilà, on achète aujourd'hui des amandes à tel prix. Et nous, on voudrait, pour bien aller, il faudrait les vendre 2-3 euros de plus. » Donc, c'est pas évident.
Et ils achètent tous ces amandes ?
Ces amandes, elles arrivent des États-Unis ou d'Espagne. À un moment, il faudra un peu être citoyen de dire « Il faudra sauver une agriculture. » Et si on veut être performant demain au niveau de l'agriculture, il faut nous soulager ou par des normes. Il n'y a pas que les normes, même au niveau des charges. Parce qu'aujourd'hui, ça ne peut plus continuer comme ça.
Là, vous me parlez du prix du vin qui baisse, vous me parlez des importations, des coûts qui augmentent. C'est exactement les mots d'ordre de votre père il y a 50 ans.
On a les mêmes problèmes.
Toute l'agriculture en général est en train de souffrir. Ça ne peut pas continuer comme ça, parce qu'il va se passer un drame.
Quand vous dites un drame, c'est que vous craignez un nouveau Morodon ?
Vous savez, quand vous avez des huissiers tous les jours devant la porte en train de demander de ci et de là, et le mec, il n'a plus rien à perdre, quand sa vie ne compte plus. Je souhaitais qu'il n'y ait pas un deuxième Morodon, mais je pense que ça sera autre chose, mais ça va se finir par un drame, par des morts. Mais là, peut-être, oui, il y aura peut-être... vous savez, quelqu'un qui est acculé ou quelqu'un qui est à bout et qui dégoupille. Et c'est triste ce que je dis. Et c'est dur, hein, mais on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri de ça.
...1976-2026, 50 ans de colère viticole. Un reportage de Damien Mestre avec Clément Vuillet à la prise de son.
France Inter, Interception.
Comment vous les imaginez, vous, vos plus vieilles années ? Est-ce que vous aussi, après un repas peut-être un peu arrosé, vous avez dit « mais on va acheter une maison et vivre tous ensemble ». Ça existe, hein, bien sûr, mais la maison où je vous emmène, à Bérat, près de Toulouse, est très particulière. Elle s'appelle la Ménardière, elle s'est montée il y a 5 ans, 12 résidents, tous retraités, très organisés. La Ménardière est un habitat coopératif. Tout le monde possède une part et paye ensuite un loyer. Ils se sont rassemblés autour d'une idée très simple. Vieillir ensemble, jusqu'au bout, et surtout, toutes portes ouvertes. À la Ménardière, on organise des concerts, des projections de films. La culture est au centre de ce lieu. Cécile Bidot, qui a fait chuter la moyenne d'âge, peut en témoigner. Il se passe toujours quelque chose à la Ménardière.
Anne-Marie Faucon, vous qui êtes l'une des maîtresses des lieux, vous pouvez nous dire ce qui se passe là ce matin ?
Une des maîtresses des lieux, c'est une coopérative d'habitants. Donc on est tous des maîtresses des lieux et des maîtres des lieux. Et donc ça, c'est une répétition une répétition publique, vient qui veut. Et on fait beaucoup, beaucoup de discussions, parce que c'est pas... Pour nous, la culture, c'est pas seulement un divertissement. C'est-à-dire que la culture, c'est ce qui vous permet de vous questionner sur le monde dans lequel vous vivez et éventuellement de le refaire. Voilà, donc on réfléchit sur tout, on fait beaucoup de débats, on travaille beaucoup avec le Conseil national autoproclamé de la vieillesse, un mouvement de vieilles et de vieux, qui regroupe maintenant plus de... Allez, on doit bien en être à 5000 personnes, qui se posent toutes les questions qui concernent la période qui part de la retraite jusqu'à la mort. Donc, comment les vieux vivent leur retrait de la vie de travail, comment on échappe à la solitude, comment on essaie de créer des habitats partagés, comment on s'interroge sur la mort, comment on se pose la question de la fin de vie, de la sexualité, parce qu'avant la mort, il y a beaucoup de choses très drôles qui peuvent se passer et jusqu'à très tard.
Et là, on l'entend tout de suite, hein, avec ces artistes qui sont là, des gens de l'extérieur qui sont venus écouter. Il y a de la vie, en fait, tout le temps.
C'est une façon aussi de rester en lien avec l'extérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas un habitat partagé qui est replié sur lui-même. Au contraire, c'est-à-dire qu'on est ouvert à toute la population et la mixité se fait pratiquement par la culture.
On va poursuivre cette conversation avec Anne-Marie. Michel, 83 ans, c'est le doyen de la Ménardière, nous a rejoint. Tous deux font partie des couples à l'origine de cette aventure. Dans leur vie d'avant la retraite, ils ont créé le réseau de cinéma indépendant Utopia. C'était déjà une coopérative à l'époque.
On avait lu un article dans Le Monde très inquiétant qui annonçait en première page « La France maltraite ses vieux et ça ne va pas s'arranger ».
C'était en 2018.
C'était en 2018, voilà. C'est parti de là, en disant comment nous maltraiter, alors qu'on pensait qu'on aurait droit à tous les égards possibles, eu égard aux efforts qu'on avait fournis.
On réalisait tout à coup qu'il y avait tout un tas de vieux qui n'avaient pas du tout envie de se laisser faire, d'être passifs, et qui voulaient être acteurs de leur vieillesse, et qui en avaient marre qu'on les appelle les seniors, les, je sais pas, troisième âge, ou je ne sais trop quoi. Non, on est vieux, et c'est pas une maladie, c'est un âge de la vie. C'est-à-dire, on existe, on est des personnes à part entière. Comme disent les Africains, le soleil est toujours le soleil, qu'il monte ou qu'il descende. On a découvert qu'on n'était pas seul, et que d'autres se posaient la même question. Après qu'on en ait beaucoup discuté, qu'on se soit dit « mais si on achète quelque chose de très gros ensemble, le mètre carré, plus c'est gros, moins le mètre carré est cher. Donc si on est nombreux à acheter, si on met tous nos moyens ensemble, on arrivera à s'acheter quelque chose de beau, puis on l'aménagera, puis on y fera des projections, puis on se tiendra la main jusqu'à la fin de nos jours en étant heureux, en se chantant des chansons, et puis on partirait dans l'au-delà heureux. » Voilà, donc c'est parti d'un conte de fées.
Donc vous avez acheté en commun cette bâtisse, à peu près 1 million d'euros, c'est ça ?
1 100 000, exactement.
Il y a eu beaucoup de travaux ?
400 000 euros de travaux. Donc ça, on avait calculé qu'il fallait 85-90 000 euros chacun pour arriver à boucler le budget.
Bon, on ne peut pas dire que ça soit facile, parce qu'il y a quelque chose qui est un peu redoutable, qui s'appelle le PFH. Voilà.
C'est quoi le PFH ?
C'est le putain de facteur humain. Il y a eu le Covid qui est arrivé, ça a perturbé beaucoup de choses, ça a retardé les travaux, ça a fait monter les prix. Il y a des gens qui ont perdu leur situation, d'autres se sont séparés. Ça a compliqué la vie de notre groupe de façon phénoménale.
Et comment ça fonctionne alors, cette coopérative ?
Alors, précision, on est à la fois propriétaire et locataire. C'est-à-dire que chacun est propriétaire d'un nombre de parts, donc pour 70 000 euros, et chacun est locataire pour sa partie privée. Si vous avez 30 mètres carrés, vous allez payer 400 euros par mois ou 300 euros par mois. Si vous avez une maison complète, vous aurez 1000 euros par mois, etc. Et tout ça, ça va dans un pot commun avec les recettes des chambres d'hôtes, avec les recettes des manifestations culturelles, s'il y en a. Et ça, ça nous permet de rembourser les emprunts, de faire l'entretien de la maison. Il faut qu'on puisse arriver à payer aussi des gens qui viennent nous aider, qui viennent peut-être faire la cuisine, que quand les forces des uns et des autres vont faiblir, il faudra bien qu'on ait un cuisinier ou qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous aider. Mais là, on tombe dans les droits de la sécurité sociale qui fait que lorsque vous avez une certaine dépendance, vous avez des gens qui viennent vous aider, qui sont pris en charge.
Dans le salon d'à côté.
Michel, on va faire un petit tour de la maison avec vous. Donc, c'est vous qui avez chiné, décoré. C'est des meubles de quelle époque, là ? Par exemple, on a un buffet devant nous.
C'est un patchwork. Il y a beaucoup de 19e, un peu de 18e, des lustres, effectivement, qui ont tout à fait leur place, quoi.
On peut aller voir un petit peu. Sur les murs, il y en a vraiment partout. Hein. Des petits tableaux, des dessins, des caricatures. Et au-dessus, là, il y a une citation en latin. Ça veut dire quoi ?
Ad Augusta, per Angusta. C'est-à-dire à des voies augustes par des chemins difficiles. Voilà.
Et alors, en termes de décoration, on est très loin d'une maison de retraite, la plupart des maisons de retraite, ou d'un EHPAD, quoi.
Oui, alors... Il faut reconnaître effectivement que souvent c'est très inesthétique. Quoi. C'est... Alors que là, on est dans le jus d'une maison qui est comme si elle était faite pour la vie.
Alors, on va monter dans les étages de la Ménardière pour aller visiter les appartements de deux coopératrices. Et là, il y a un grand ascenseur en fait de verre. Qui permet d'éviter les escaliers, si besoin.
Et transporter un fauteuil roulant, s'il y a besoin. Donc, il y avait juste la place entre les escaliers pour pouvoir l'installer. Alors, chez moi, c'est par là. Donc là, on a peut-être... On a les chambres d'hôtes qui sont là, d'abord. Ça nous sert à accueillir les gens. Ben, on a, en fait, la plupart de nos hôtes, c'est des gens qui viennent nous rencontrer, en fait. Parce que le projet les intéresse.
Donc, quelqu'un qui voudrait rejoindre l'aventure passe quelques temps, c'est ça ? C'est un peu un test ?
C'est ça.
Avant de s'installer ?
C'est quand même assez compliqué, parce qu'on va vieillir ensemble, enfin, on a le projet de vieillir ensemble, donc il faut qu'on apprenne à se connaître.
Il y a un prérequis, on va dire, dans le sens où, effectivement, on ne peut pas directement s'impliquer dans le projet si on n'a pas fait une période d'essai. Et après, c'est la coopérative en entier qui va décider de, ou pas de la rentrée du coopérateur ou de la coopératrice ou d'un couple, ça dépend.
Voilà, alors là, on a une chambre d'amis, je vous montre aussi. C'est une chambre d'amis. Ah, elle est toute dans le noir, voilà. Ah ben, excuse-moi, Eric.
Il y a quelqu'un qui fait la sieste.
Ah, puis la lumière. Désolée. Donc, c'est une chambre d'amis. Et qui sert pour la famille, pour les coopérateurs qui n'ont pas encore de lieu. Et du coup, là, voilà, j'ai interrompu la sieste de Eric.
Venez, dans le petit coin, là-bas. Je m'appelle Geneviève. Moi, je viens donc de la région stéphanoise, mais j'habite la région toulousaine depuis les années 80.
Quel âge avez-vous ?
Quel âge j'ai ? 69, bientôt. Je suis.
Je me permets de le dire, vous ne les faites pas. Vous
Merci,
avez l'air
gentil.
D'une jeune fille.
Ouais, tout juste.
C'était quoi votre métier d'ailleurs ?
Infirmière, à domicile. Quand j'ai fini de travailler, j'ai vendu l'appartement que j'avais, parce qu'il faut un petit pécule quand même pour rentrer à la coopérative, il faut le dire. Sachant après qu'on paye un loyer, 14 euros le mètre carré, pour habiter sur sa surface.
Ça fait combien ici, par exemple ?
Je paye 341 euros par mois. Et mon appartement, moi, il fait 25 mètres carrés, 26. Actuellement, c'est vrai, les vieux, soit ils sont riches, ils ont des sous, ils voyagent partout, soit ils sont plus opérationnels et on les met de côté, on les voit plus. En fait, l'idée, c'est de trouver le chemin entre les deux, quoi. Qu'on nous entende, qu'on tienne compte de nous, et puis c'est pas attendre qu'on vienne nous chercher. Puis bon, on est vachement quand même aussi bombardé par le fait que notre société, elle vieillit. On se dit, oh, il va nous arriver un truc, on est vachement plus de vieux que de jeunes, comment on va faire ? Mais en fait, il ne se passe rien. Donc je me dis, si on ne prend pas notre sort en main, et notre sort, ce n'est pas que nous, seuls à la Ménardière, c'est donc s'ouvrir sur l'extérieur. Nous, notre lieu, on le veut ouvert à l'extérieur. Je me dis, on peut faire un truc génial, quoi. Enfin, un lieu de vie génial.
Il
Pour faire vivre une grande bâtisse comme ça, il faut prendre des décisions en permanence. Et comme c'est une coopérative, chacun a une voix. C'est maintenant l'heure de la réunion hebdomadaire.
L'ordre du jour, j'avais noté point sur l'assurance dommage ouvrage. Ça devrait être rapide. Construction des maisons et parking en vue du début des travaux du 16, c'est pas sûr qu'ils commencent lundi.
Non, c'est pas sûr. Hein.
Les directives anticipées, c'est important qu'on les ait ici, chacun pour chacun. Si un jour on est amené à plus pouvoir
ça, dire ce qu'on veut. C'est une fiche qu'on va demander à chacun de remplir quand il a.
Voilà, cette fiche, si vous êtes d'accord, je vais vous la faire circuler. Vous en prenez chacune un et vous la remplissez.
Ben, tu nous
et vous nous la redonnez.
Je ne peux pas tous les jours.
Quand on vient dans une coopérative, c'est pour participer, on est coopérateur. Et justement, c'est le maître mot de ce qu'on fait. On veut être maître de notre vie jusqu'à la fin. Donc ça commence par prendre la parole, par faire des tours de table, par s'engueuler. On ne s'engueule pas vraiment d'ailleurs, c'est plutôt des confrontations d'idées, des confrontations de méthodes. Mais ben, finalement, on arrive à une sorte de consensus. On se tire les uns les autres vers quelque chose de mieux, c'est-à-dire qu'on s'apprend beaucoup les uns aux autres.
Du repas, Anne-Marie, tout le monde met la main à la pâte, comment ça se passe? Ou c'est chacun son tour?
C'est-à-dire que tout le monde partage, on met tout en commun. Bibi et Eric, ils ont fait un magnifique poulet avec plein de choses. Il y a une profusion de desserts. C'est horrible pour ça de partager parce que tout le monde fait de son mieux pour faire la cuisine. Donc il n'y a que des bonnes choses. Il y a des vins délicieux, il y a des fromages fabuleux. Moi, c'est
orgiaque. Vraiment, on vous plaint.
C'est pas la cuisine des EHPAD.
Vous pouvez vous servir à manger.
Allez,
choisissez votre place. Posez le micro et mangez. Merci.
Nous voici de retour à la Ménardière en ce dimanche matin. Quelques volets blancs de la maison sont encore fermés, mais comme il se passe toujours quelque chose ici, il y a une projection qui va démarrer. C'est évidemment ouvert au public. Un grand écran se déplie dans le petit salon. La Ménardière se transforme en cinéma, le temps d'une matinée. Je vous vois là, tous en famille, il y a la grand-mère, le fils, le petit-fils. Qu'est-ce que vous pensez de cet endroit, la Ménardière?
Alors voilà, je me permets de répondre parce que c'est moi qui ai pris les places pour le film. Je ne savais pas si c'était un cinéma, je ne savais pas trop le lieu où. D'ailleurs, on a eu un peu de mal à trouver. Et c'est comme ça qu'on est arrivé totalement par hasard.
Et vous avez découvert le principe de cet habitat partagé pour les retraités qui vivent ensemble, qui mettent en commun. Qu'est-ce que ça vous inspire comme mode de vie?
Cette façon de voir le troisième âge est super intéressante. En gardant un lien social fort. Souvent, on les voit qu'il y a des couples ou même des personnes seules qui souffrent du manque de lien social quand ils sont plus âgés, quand on perd le monde du travail, le monde de l'enfance, quand on a des enfants, etc. Je pense que c'est une belle façon de voir ces vieux jours. Maman, toi qui es retraitée, dis-nous quelque chose.
Mais moi, je sais pas, je trouve que c'est bien, oui, bien sûr. Pour ne pas être seul, oui, c'est bien.
Oui, une petite graine qui est semée là, ça va réfléchir, ça va cogiter.
Ouais.
Peut-être dans quelques années, vous viendrez, elle sera là.
Merci beaucoup,
Merci.
Au revoir.
Au revoir, merci.
Anne-Marie, Michel, avec ce lieu, la Ménardière, est-ce que vous avez l'impression d'avoir trouvé une voie?
On s'est rendu compte que des maisons comme celle-là, qui sont bien aménagées, qui ne demandent qu'à continuer à vivre, il y en a des milliers de ce genre-là. C'est pour ça que, quand on a pensé à ça, on a cru bon de signaler au pouvoir public qui avait intérêt, avec l'arrivée des boomers, à se dépêcher de faire quelque chose. Mais c'est maintenant qu'il faut agir.
Alors, la Ménardière, elle va vivre éternellement, à votre avis ?
Oui, mais la coopérative, c'est une course de transmission. C'est pour ça qu'on a choisi le mode coopératif. C'est-à-dire que vous ne travaillez pas seulement pour vous, vous travaillez pour l'éternité. C'est-à-dire, c'est l'éternelle, la perpétuelle transmission. Nous, on va mourir un jour, mais par contre, d'autres reprendront nos parts et continueront ce qu'on a entamé. Là, on est en train de planter potagers, arbres, fleurs, enfin, tout mélangé avec le système de permaculture, etc. Mais ce n'est pas pour nous qu'on plante. Il y a des arbres qui mettront 50 ans à pousser, à être à leur pleine maturité. Donc, tout ce qu'on fait, que ce soit le fait de faire en coopérative, c'est une course de relais pour que les générations suivantes s'en emparent, etc.
La Ménardière, l'auberge de vieillesse. Un reportage de Cécile Bidot avec Geoffrey Marianne. À la production d'Interception cette semaine, Hélène Chevalier. La réalisation est signée Lucie Lemarchand et Charles de Silia. Martine Messonnier est chargée de programme et c'est Maxime Goudard et Nicolas Delmas qui assuraient le mixage. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Interception au bout du monde et au coin de la rue.